Le Grand Dialogue.
Sigi Kafomba.
Et de Wani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chien Nibiri.
Halouk Mouni.
Chien Nibiri. Sigi Kafomba. Le Grand Dialogue.
Pourquoi les prix des denrées continuent de flamber? Au commencement, c'était l'huile et la viande. Aujourd'hui, cette cherté touche à tous les types de produits. À titre d'exemple, selon des ménagères, deux tomates coûtent actuellement 100 francs, voire 200 francs CFA. Et neuf est cédé à 150 francs CFA dans certains endroits de Bamako. La pomme de terre, l'oignon, le haricot, tous ces produits grimpent du jour au lendemain. Déplore la ménagère. La population interpelle l'État malien. Pour en parler, nos invités sont... Dantouma Koïta du Sinakodem, syndicat national des commerçants détaillants du Mali. Abdoulaye Balo de l'Association des libres consommateurs du Mali, Alcom. René Sidibé du Front populaire contre la vie chère. Modibo Mao Makalou, économiste, il n'est pas encore arrivé, on espère l'avoir d'ici la fin de l'émission. Je suis Mariam Maïga, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Chers invités, avant de rentrer dans le vif de cette émission, je vous invite à écouter ce micro-trottoir réalisé dans un marché à Bamako.
Le transport est cher et la marchandise aussi. Nous sommes obligés de faire des bénéfices. Il y a quelques mois, les pommes de terre qui viennent de Sikasso coûtaient 275 francs CFA le kilo. Mais actuellement, c'est cédé à 350 francs CFA chez nous, les grossistes.
C'est la maladie des poulets qui a affecté la vente. Beaucoup de poulets sont morts cette année. Avant, nous vendons l'alvéole d'œuf à 1900 ou à 2000 francs CFA. Mais actuellement, nous les vendons à 2700 francs CFA ou à 2800. Sans ça, nous n'aurions pas de bénéfices.
L'arachide coûte cher. Avant, nous vendions les kilos à 500 francs, mais actuellement, c'est cédé à 700 francs CFA.
Les kilos de haricots étaient cédés à 400 ou 450 francs CFA, mais actuellement, c'est vendu à 600 francs CFA.
Le prix du carton du sardine a augmenté. Avant, c'était vendu à 13 000 francs, mais actuellement, c'est à 15 250 francs CFA. Donc, nous sommes obligés de vendre l'unité à 350 francs CFA.
Alors, chers invités, vous venez d'écouter ces réactions des commerçants dans un marché à Bamako. Quelle lecture faites-vous de ça? Je commence par vous, M. Dantouma Koïta.
Ok, salam alaikum wa rahmatullahi. Bon, l'augmentation des prix dépend de deux situations. D'abord, il y a des produits où c'est des périodes où sont moins chers. La pomme de terre, c'est le moment du mois de décembre, janvier, ça trouve que c'est après la récolte. Les oignons. Les produits de chez nous sont des produits périodiques. Le moment où ça sort de chez les cultivateurs, ça vient sur le marché, les commerçants n'ont pas de moyens pour des moyens de conservation. Et en ce temps, la pomme de terre est cédée à 150 francs, à 200 francs, à 250. 3 mois, 4 mois après, les gens qui ont des chambres froides qui peuvent conserver, obligatoirement, il y a des frais qui rentrent dans ça. Parce que quand tu conserves ça, tu as une chambre froide, c'est vrai que tu perds du courant. Maintenant, le cas des oignons, ce n'est pas la période. Ce que je viens d'entendre, le cas de la tomate aussi, la tomate, ce n'est pas la période pluvieuse. C'est maintenant, l'hivernage va commencer. C'est après l'hivernage que les jardins, c'est après la culture qu'on fait le jardinage. Sinon, tous les produits qui quittent l'extérieur, la plupart n'augmentent pas. Je prends le cas du sucre, il n'a pas eu d'augmentation. Le cas de l'huile, l'augmentation, c'est l'État. Parce que l'an passé, il n'y a pas eu de culture de coton. S'il n'y a pas eu de culture de coton, il n'y a pas eu de troupeau, il n'y a pas eu... Les usines, les 90 usines n'ont pas marché cette année. Ça, ce n'est pas la faute aux commerçants. C'est parce que l'État n'a pas pu bien gérer avec les agriculteurs. Ils n'ont pas fait de coton l'an passé. Ça, c'est un problème qui est là. Les œufs aussi, c'est des périodes. Il y a des moments où les œufs, les pondeuses, il y a des périodes qui sont là. Sinon, le commerçant fait tout pour qu'il n'y ait pas d'augmentation. Le commerçant et la population aussi, c'est le consommateur qui est là. Moi, quand même, ce que j'ai à dire en première position, ça, c'est cela. L'augmentation, souvent, ne dépend pas de nous. C'est la période qui fait.
René Sidibé, vous êtes membre d'un front populaire contre la vie chère. Vous faites des manifestations inopinées dans les endroits de Bamako. Comment les consommateurs vivent déjà cette situation?
Bon, nous le vivons d'une manière pénible. Nous le vivons d'une manière pénible, puisque, en réalité, tant que... la population gagne, ne peut pas gérer, c'est-à-dire que son quotidien, il est obligé de réagir. Donc, Raison pour laquelle aujourd'hui vous nous voyez dans la rue, c'est-à-dire qu'on fait des manifestations pour pouvoir essayer d'alerter la population et les autorités, afin qu'ils puissent revenir, c'est-à-dire que vers les commerçants, vers les fournisseurs en réalité, pour qu'ils puissent baisser réellement les prix des denrées alimentaires. Ce n'est que ça.
Voilà. Monsieur Ballot de l'Alcom, cette situation déjà concerne quel type de produits? Vous êtes à la tête d'une association qui défend les causes des consommateurs. Cette cherté actuellement concerne quel genre de produits?
Bon, je salue tous les auditeurs du studio Tamani. Cette cherté de vie touche à beaucoup de produits au jour d'aujourd'hui. Il y a notamment la viande, il y a l'huile alimentaire locale, l'huile alimentaire importée, et il y a également le lait, sinon le riz, le prix est stable, on peut le dire, surtout le riz importé, le riz Brésil non parfumé. Le gouvernement a fixé le prix, je pense, à 350. Dans beaucoup de marchés, ça varie entre 350 et 375. On peut dire que c'est acceptable. Donc, les denrées de grande consommation qui embêtent beaucoup les gens aujourd'hui, ça c'est la viande. La viande et l'huile alimentaire. Surtout l'huile alimentaire et la viande. Vraiment, le prix a beaucoup augmenté.
Déjà, dans vos tentatives, je sais que vous défendez les causes des consommateurs. Oui. Est-ce que c'est sorti les causes de cette augmentation? Qu'est-ce qui explique cela?
Bon, la crise actuelle, c'est mondial. Ce n'est caché à personne. C'est mondial. Et il y a problème de COVID-19 qui a impacté même l'économie du monde. Le taux, je ne sais pas comment expliquer. Par exemple, quand tu prends le prix des denrées alimentaires importées pour venir sur le territoire malien, le prix a grimpé. Tout ce qu'on pouvait avoir à 10$, il faut compter maintenant jusqu'à 35$, voire même plus. Donc la crise, c'est mondial, ce n'est caché à personne.
Certes, la crise, elle est mondiale, oui. Mais il se trouve que quand vous parlez des produits de grande consommation comme la viande déjà coûte plus cher ici que... dans nos pays voisins, exemple la Côte d'Ivoire.
Il y a des explications. Parce que quand vous prenez le nord du Mali, c'est un lieu dont les gens font beaucoup l'élevage. Mais ça se trouve dans la zone d'insécurité. Tous les éleveurs, à cause de l'insécurité, ont amené leurs bœufs dans des zones de sécurité. Et ces zones de sécurité, c'est les pays voisins du Mali. Donc nous sommes plus touchés par la rébellion que eux. Donc c'est dû à ça qu'obligatoirement, ils ont hébergé leur viande, leur bœuf dans les pays voisins. Donc obligatoirement, la viande va être moins chère là-bas par rapport à chez nous ici. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, quand ces éleveurs-là essaient d'amener leur bœuf vers Bamako, souvent, ils sont victimes de braquage. Il y a ces problèmes-là aussi. Un moment, on a rencontré les services techniques concernés. Le ministre du Commerce à l'époque, qui était Haruna Nyanga, on a beaucoup discuté sur le sujet. Ils ont pris des dispositions pour que les bœufs ne sortent plus du territoire malien. Mais qu'est-ce que ces éleveurs-là font? Ils chargent les bœufs, arrivés à une cinquantaine de kilomètres au niveau des frontières, à 50-40 km, ils déchargent les bœufs, ils contournent les frontières à pied et ils rejoignent l'autre pays voisin. Donc, ce n'est pas facile. C'est par rapport à tout ça, surtout sur le problème de la viande. Moi-même, j'ai fait des enquêtes sur le marché. 3000 francs, on dit que on ne peut pas accepter que le Mali vend, que les Maliens achètent la viande à 3000 francs. C'est trop. On a contacté le ministre, je pense le représentant ou bien la représentante de la vie chère était là-bas le mardi au ministère du Commerce. On a sérieusement parlé avec le ministre, avec les représentants des différents services techniques, dont la DGCC et les services qui font des enquêtes sur le marché et les vendeurs de la viande et les vendeurs du bœuf. ils ont exposé leurs problèmes. Le gouvernement est en train de prendre toutes les dispositions pour que les prix puissent revenir à la normale.
Mais M. Balo, concernant le cas spécifique de la viande, je pense qu'au niveau de la DGCE, sur ce plateau, ils ont eu à dire que sur le prix de la viande, le marché, c'est une libéralisation de prix concernant la viande. La DGCE n'a pas de regard sur l'harmonisation des prix de la viande.
Oui, effectivement, parce que le commerce malien est libéral. Le commerce malien est libéral, mais arrivé à un certain point, quand ça ne va pas, l'État s'engage et il fixe les prix. C'est ça qui s'est passé l'autre jour. Le ministre a été très clair. Il dit le prix de la viande, lui, ministre du Commerce, le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre de l'Élevage, le Premier ministre, le président de la Transition, ils ont décidé qu'il faut que la viande soit vendue à 2200. À 2200. Et l'État va subventionner. Et l'État va subventionner. Donc, ils ont fait des propositions. Je pense aujourd'hui, c'était les derniers réglages. Comme moi, je n'étais pas présent, je ne sais pas ce qui est sorti dedans. Mais ce qui est sûr, l'État s'engage à donner la viande dans les jours à venir à la population, le kilo à 2200.
Alors, l'État s'engage à donner le kilo de la viande à 2200 francs à la population très prochainement, pour 2 mois.
Pour 2 mois.
Alors, voilà. M. Koïta, vous, en tant que Association des commerçants détaillants du Mali, qu'est-ce qui fait que chaque année, c'est le statu quo? Est-ce qu'on ne peut pas prévenir ce genre de situation?
Bon, moi, je suis très content quand mon camarade est en train de défendre nous, les commerçants, parce que lui, j'ai vu que dans les débats, chacun se défend. Les gens ne veulent pas dire la vérité, chacun se met dans un carcan pour défendre peut-être sa corporation. Mais il vient d'expliquer pourquoi la viande est chère. Dans le lieu aujourd'hui, au Mali du Nord, il y a l'insécurité qui est une cause d'augmentation. Les parties sécurisées dans les zones de Banamba, Kouloukoro, quand les gens viennent pour vendre à la DRAL, en partant, ils vont les braquer dans la voiture pour prendre aussi leur argent. Il y a deux situations. Il y a une situation d'enlèvement des troupeaux, il y a une situation de braquage de véhicules pour prendre leur argent. Les commerçants, quand ils viennent.
Nous,
on ne peut pas, parce que nous, on est là, étant commerçants, on essaie d'approcher les commerçants pour voir après les ventes comment on peut faire de l'argent, soit dans les banques, soit dans les oranges monnaies. Les commerçants aussi, les gens ne sont pas lettrés, ils n'acceptent pas certaines choses. Mais c'est l'État qui doit s'engager pour aider les gens à sécuriser. Au moins, quand les gens viennent à la DRAL, c'est le samedi, les cars qui quittent ici pour aller dans certaines zones, on peut même au moins les escorter. Pour sécuriser les gens qui sont là-dedans, parce que les gens qui sont là-dedans, on sait qu'ils sont venus vendre, ils ont de l'argent sur eux. Pour te dire, l'augmentation de la viande, ça dépend des deux situations. Une première dont il vient de dire, ça c'est l'insécurité dans les zones d'élevage. Un deuxième point est quand ils vendent, avant au retour pour aller dans leur zone, ils sont attaqués pour prendre.
Mais sauf que cette cherté ne concerne pas que la viande. Certes, c'est un produit de grande consommation.
Oui, mais j'ai pris l'exemple sur certains produits où il y a des moments. Moi, je crois qu'aujourd'hui, un pays indépendant depuis 60 ans, il n'a pas de chambre froide pour la conservation des produits. Si aujourd'hui, il y avait des grands magasins pour conserver la pomme de terre dans les zones de Sikasso-Kati, ce problème n'allait pas arriver. Dans notre pays, les commerçants, ce qu'ils doivent faire, et ils font ça. Mais ce n'est pas pour critiquer, mais l'État, à son niveau, ne fait pas ce qui se doit. C'est ce qui fait que toujours, toutes les années, il y a ces problèmes-là. Sinon, le sucre n'a pas augmenté, les riz quelque part n'a pas augmenté. Les commerçants, de leurs moyens, ce qu'ils doivent faire pour vraiment la stabilité des prix, ils font. Mais ils sont butés à certains problèmes qui doivent être résolus par l'État, qui ne sont pas résolus. Voilà le problème où chaque année, le problème, ça se répète et il n'y a pas de solution.
Alors, pour résumer ce que vous venez de dire, ce sont les produits qui n'ont pas besoin de conservation, qui n'ont pas connu de flambée. Exemple, le sucre,
le riz,
c'est stable. Mais
l'huile, quelque part, parce qu'il n'y a pas eu cette année de production de coton
production,
qui a fait que l'huile a augmenté.
Effectivement. Oui. Et les produits qui ont augmenté, ce sont les produits qui pourrissent généralement vite à cause d'un problème de conservation.
Voilà.
Modibo Mahomakalu, vous êtes économiste. Est-ce que la libération des prix en est pour quelque chose dans cette situation?
Merci madame, bonsoir à tous. La libéralisation des prix, vous savez, c'est une donne actuelle de l'économie mondiale. Parce que vous savez que très peu de pays ont encore le pouvoir, enfin, quelques pays encore essayent de réglementer les prix. Si je prends la Chine, par exemple, le prix de l'essence, ils essaient de réglementer pour que ça ne dépasse pas, le prix ne dépasse pas un certain niveau de hausse. Mais c'est difficile à suivre, à renforcer, c'est-à-dire à s'assurer que ce que le gouvernement dit va être fait. Vous n'êtes pas sans savoir que nous-mêmes, nous avons vécu dans cette situation ici, dans ce pays, sous la Première République, et que ça a amené beaucoup de problèmes. Mais ce que je veux dire, c'est essentiellement un problème d'offre et de demande. D'offre et de demande. Et la responsabilité de l'État, la responsabilité de la puissance publique, c'est de s'assurer que l'offre est assurée, que les magasins sont achalandés, que la fourniture n'est pas interrompue. Mais ce qui est difficile en ce moment, c'est la pandémie mondiale, la Covid, qui a interrompu les chaînes de valeur. Vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas trouver de conteneurs. Ça, c'est pour les produits que nous importons. Et nous en importons beaucoup. Les statistiques officielles de ces deux dernières années nous indiquent que les Maliens importent environ pour 330 milliards de denrées alimentaires chaque année. Ça, ce sont les statistiques officielles. C'est énorme. Mais maintenant, la production locale, on en a parlé tout à l'heure, le coton, vous avez parlé de la viande. La troisième recette d'exportation de notre pays vers l'extérieur, après l'or et le coton, ce sont les animaux vivants. Et les prix à l'extérieur du Mali sont plus importants que les prix à l'intérieur du Mali. Un pays entouré de 7 pays, combien de kilomètres de frontières? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui peut être fait? C'est difficile. Mais maintenant, ce que l'État peut faire, c'est peut-être d'assurer auprès des éleveurs l'alimentation et la santé animale, pour s'assurer aussi que les marchés sont fournis. Et c'est cela, il faut une subvention. Il faut une subvention, mais une subvention qui va aux producteurs. Et cela, je crois que ça a été un peu expliqué, que c'est en train d'être fait. Mais maintenant, nous sommes dans un pays où les prix sont libéralisés. Donc, le commerçant, le prix auquel il achète un bien ou un service, il répercute ça au consommateur, plus une marge. Mais maintenant, ce que nous voyons ici au Mali, c'est une hausse généralisée des prix, et qui souvent n'a même pas de sens. Ce n'est pas la faute des commerçants, ce n'est pas la faute des consommateurs, mais c'est des spéculateurs qui sont là en ce moment, qui profitent d'une situation, l'après-Ramadan, parce que quand les produits sont là et que vous les gardez dans les magasins et que vous ne les sortez pas, bon, c'est un problème. Mais aussi, pour ce qui concerne ce qui a été expliqué ici, les produits qui viennent même du Mali, quand l'offre n'est pas assez fournie, et que la demande est là, ben écoutez, il y aura pénurie et les prix vont monter. Mais c'est à l'État de s'assurer. Gouverner, c'est gérer. Gérer, c'est prévoir. Donc, cette hausse généralisée-là, c'est dans le monde entier. L'indice des prix alimentaires dans le monde de la FAO est sorti le mois dernier. Mais on n'a jamais vu cette hausse de prix dans le monde depuis 2011. Ce n'est pas le Mali seulement, mais il faut entreprendre des actions pour quand même faire en sorte que le consommateur ne ressente pas l'effet. Et cela, il faut s'asseoir avec les consommateurs, ceux qui vendent, les commerçants, pour trouver un terrain d'entente. Et in fine, il faut que l'État subventionne certains produits de première nécessité. C'est une nécessité absolue. Ça doit être fait dans le temps, de manière temporelle. Ça veut dire que ça doit être limité dans le temps. Et voir un peu comment on peut stabiliser les prix. Mais cela ne doit pas se faire au détriment des consommateurs dont le pouvoir d'achat baisse, ni des commerçants dont les revenus vont baisser si on leur impose un prix qu'ils ne peuvent pas assurer.
Il a tantôt évoqué tout à l'heure cette cherté, elle est mondiale, ça touche tous les pays du monde. Mais on constate également dans nos pays que quand il y a... Il y a cette situation, des commerçants en profitent pour augmenter des prix, d'où la spéculation. René Sidibé, comment faire face à ce genre de situation? Est-ce que, au sein de votre fonds, vous avez une stratégie pour dénoncer ces cas de spéculation?
Bon, voilà. En fait, nous avons entrepris des actions avec les agents techniques de la DGCC, c'est-à-dire que la Direction générale du commerce et de la concurrence. À un certain moment, on avait sillonné, c'est-à-dire que Bamako et en certaines régions pour pouvoir essayer de voir vraiment comment les commerçants essayent de vendre les produits sur le marché. Donc, je pense que quand les actions sont menées à travers, c'est-à-dire que les suivis, si les suivis sont réellement menés,
par les agents techniques, les agents de contrôle de la DGCC sur le terrain, je pense que cela, c'est déjà la flambée de ces prix-là n'allait pas eu lieu. Malheureusement, je vois que, moi je comprends que, c'est-à-dire que souvent ils sont inactifs. Ils sont inactifs. Leur inaction aboutit, c'est-à-dire qu'à ces spéculateurs-là, de profiter de ces moments afin de pouvoir essayer de faire les ventes à hausse prix. Ça, ce n'est pas normal. Je pense que je dois essayer de rebondir un peu sur certains points que nos deux, voilà, qu'ils ont touché par rapport à au prix de la rue Brésure là. On le vendait à 400 francs. Ce n'est pas 400 francs maintenant, on le vend maintenant à 500 francs sur le marché. C'est pas normal. C'est pas normal. Nous, moi, on a mené des enquêtes. C'est pas normal. Il y a aussi le représentant des commerçants de terrain. Lui, il a parlé. C'est-à-dire qu'il dit que oui, ce n'est pas lieu où. La faute n'est pas aux commerçants. Je n'en disconviens pas trop. Mais il faut reconnaître aussi que l'arbre ne doit pas cacher la forêt. C'est-à-dire qu'il y a des commerçants qui sont de mauvaise volonté, franchement. Enfin, ça, il faut le dire. On ne peut pas continuer, c'est-à-dire qu'à abuser de la population comme ça. Ça suffit. Ils profitent à des moindres coûts pour pouvoir essayer de faire n'importe quoi. L'État, moi, je pense que l'État doit veiller sur ces points. Franchement, l'État doit veiller sur ces points afin de faire un vrai suivi des prix. Parce que franchement, ça ne peut plus continuer comme ça. Moi, je pense qu'à mon avis, quand même, ça ne peut plus continuer. Les commerçants, c'est-à-dire qu'à tout moment, quand il y a une situation, ils essaient de profiter. Quand il y a une situation, ils essaient de profiter. Cela ne passe pas, à mon avis.
Monsieur Dantoma Koïta du Sinakodem, que peuvent être les actions à entreprendre pour que les produits baissent? Parce que tantôt, on sait que selon la DNCC, le marché est suffisamment fourni, mais sauf que les commerçants, peut-être, ils s'approvisionnent ces produits en difficulté, ce qui pourrait expliquer, selon vous, cette augmentation. Mais est-ce qu'il y a des actions à entreprendre aujourd'hui?
Bon. Moi, c'est que je réponds à mon ami qui dit que les commerçants veulent vendre des choses chères. Moi, je ne suis pas d'accord.
Je n'ai pas dit qu'ils sont là, ils veulent vendre des choses chères. Moi, certains commerçants profitent de certaines situations. L'inaction de l'État.
L'inaction de l'État, c'est ça qui est le problème de tout. L'inaction de l'État, ça, je vous dis, étant commerçant détaillant, c'est vrai. Mais ici, l'État ne s'assume pas par rapport à beaucoup de choses. Le dédouanement n'est pas le même pour les mêmes personnes. Toi, tu envoies un conteneur, tu le dédouanes à 10 millions. Quelqu'un envoie un conteneur, il peut dédouaner à 5 millions. Ici, les choses ne sont pas claires. C'est ce qui fait que c'est l'État qui ne s'assume pas. C'est pour cela qu'il y a des problèmes. Selon le commerçant, la moto Yamaha dans ce pays-là, c'était à 1,5 million qu'on a acheté avec les Japonais. C'est les commerçants maliens qui sont partis en Chine pour les fabriquer. Aujourd'hui, on a les motos à 350 000 francs. Le commerce malien a une chance parce que c'est les Maliens qui font le commerce ici, au contraire des pays voisins comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal. On a pitié de nous, on sait que nous sommes tous des pauvres. Les consommateurs, c'est nous-mêmes. Les commerçants font tout pour qu'il y ait des prix accessibles. Mais souvent, quelque part, il y a des choses qui ne marchent pas. Et ces choses-là, ça ne peut être que souvent la part de l'État qui n'est pas bien assumée. Les gens, le cordon douanier, la route qui quitte une frontière pour Bamako, la gendarmerie, la police, les eaux de forêt. Les gens, les commerçants ont beaucoup de problèmes, souvent qui ne sont pas exposés. Qui font aussi, comme M. Makalou vient de dire, quand tu achètes quelque chose à 500 francs, si tu veux revendre, après les coûts, tu dois revendre au moins à combien? L'essence, si l'essence augmente, tout ça, ça rentre dans le jeu. Aujourd'hui, quand tu veux aller acheter à l'extérieur, si c'est 10 dollars, il y a 3 ans, aujourd'hui, tu l'achètes à 20 dollars. Le dollar, ce n'est pas notre monnaie. Nous échangeons à combien? Quand tu quelque chose que tu achètes à 10 dollars, quand tu l'achètes aujourd'hui à 20 dollars, le bateau est payé en dollars ou en euros. Tout, c'est d'autres monnaies qui ne sont pas. Ça, il y a des fluctuations qui sont là. Et ces fluctuations aussi peuvent jouer sur les prix. Moi, je crois que le commerçant se bat pour que le Malien, la population peut être à l'aise, pour que la population puisse avoir tout.
Est-ce qu'on peut tout résumer dans cette inaction de l'État dont vous dénoncez tantôt? Est-ce qu'au niveau du Sinakodem, vous avez une brigade également pour voir également comment les prix sont gérés sur le marché?
Bon, nous, on n'a pas... L'État, c'est l'État, la DNCC, comme ils veulent, et qui doivent dire les prix, c'est eux qui doivent faire vraiment des brigades pour aller vérifier si les commerçants font ce qui n'est pas normal. Comme il a dit, quand on dit commerçant, le prix est libéralisé, il y a beaucoup de sortes de commerçants. Il y a des gens qui vendent des choses même périmées dans ce pays, des choses périmées. Nous sommes commerçants, on ne veut pas ça. Mais quand ils dénoncent ça, qui doit arbitrer ceci?
C'est pour dire que le consommateur, ce qu'il dit, ça, c'est vrai quelque part. Mais moi, je crois que le commerçant normal, qui est là, qui paye ses taxes, qui est musulman, qui est aussi malien, fait tout pour que sa population soit à l'aise, qu'il ait des choses à moindre prix. Mais souvent, il y a des gens qui profitent. Mais si les gens profitent, qui doit faire la répression? Ce n'est pas entre nous, commerçants, ce n'est pas les Sénégalais qui vont dire que ah, Mme Maïga, il ne faut pas vendre à ce prix. Même si on est à côté, moi, je vends à 500, tu vends à 1000 francs, c'est normal. Mais c'est l'État qui doit s'assumer pour mettre des brigades, vérifier les gens qui ne font pas et ceux qui doivent en couler de le faire. Moi, je crois que c'est ça.
Monsieur Abdoulaye Ballo, est-ce qu'au sein de l'ALCOM, vous avez des stratégies pour rendre les plus accessibles à la population?
Bon. Nous, au niveau de l'ALCOM, quand il y a flambé des prix, on avise l'administration, surtout le ministère concerné qui est le ministère du Commerce, les services techniques. On leur écrit pour dire attention, il y a flambé des prix sur cette denrée alimentaire, soit sur cette produit. Donc prenez des dispositions. Mm-hmm. Souvent ils sortent pour faire des enquêtes. Souvent nous-mêmes on rentre dans les différents marchés, on fait des vidéos en direct. Après, on leur envoie des courriers pour leur aviser. C'est par rapport à ça que souvent ils sortent pour prendre des dispositions, ils nous appellent, on s'assoit. Et ils appellent les acteurs concernés. On fait beaucoup de rencontres avec les commerçants détaillants, même souvent avec les commerçants grossistes, au sein du ministère, pour pouvoir jouer sur les prix pour le bonheur des consommateurs maliens.
Est-ce que dans ces différentes démarches, il y a eu des commerçants qui ont été épinglés, par exemple, par la DGCCC dont vous parlez?
Bon, souvent, dans leur sortie, on voit qu'ils ferment des boutiques. Parce que souvent, la DGCC sort avec des fiches dont les prix sont émargés. Souvent, ils font des promotions à la télévision, à la radio. Mais moi, j'ai dit que tous ces problèmes, l'information est bloquée à quelque part. Mm-hmm. Il faut que l'information soit répandue dans toutes les vernaculaires du Mali.
Quand et ces que boutiques les gens sont fermées, comment ces boutiques rouvrent de nouveau?
Parce qu'il y a un problème au Mali. L'information, quand ça se circule, c'est au niveau des Bamako. L'intérieur, souvent, ils ne sont pas informés. Il y a un déficit d'information.
Avant de vous laisser continuer, s'il vous plaît, je veux demander j'ai le représentant du syndicat des commerçants détaillants. Mm-hmm. Quand une boutique est fermée par la DGCC, comment cette boutique rouvre de nouveau? Quelles sont les démarches? Est-ce qu'il y a des étapes?
Bon, si une boutique est fermée au marché, nous étant les responsables, si le propriétaire nous approche, on va à la direction pour faire des interventions. Ça, c'est normal, le syndicat est là pour ça, mais qu'on soit que si la personne n'a pas raison, si le fautif doit payer des amendes, peut-être notre intervention, c'est pour assouplir les choses.
Mais l'État a le droit de faire. Les amendes peuvent aller jusqu'à combien? Comment ça se passe réellement?
J'ai fait des interventions de ce cas il y a très longtemps de cela, je ne me rappelle pas. Mais ça, ce n'est pas des cas d'augmentation ou de fraude. Ça, c'est des cas de contrôle. La DNCC a vraiment le pouvoir chaque année de passer dans les grandes boutiques pour faire certains contrôles et demander certains papiers. Vraiment, quand on a des adhérents qui ont ces problèmes-là, on part vers eux, vraiment, pour assouplir si la personne doit payer une amende de 200 000 francs. Le Sénégal aussi va essayer d'intervenir pour qu'ils font des réductions. Sur ce plan, quand même, c'est ça. Sinon, si on ferme les boutiques, les propriétaires n'ont pas le droit d'ouvrir sans passer par. Soit si tu veux, tu passes par le syndicat, soit tu veux personnellement, tu vas à la direction pour aller intervenir. Mais c'est après vraiment amende qu'ils viennent pour ouvrir la plupart.
Mais cette amende en question, est-ce que au niveau du. Je voudrais savoir que cette amende peut être quoi? C'est quoi? Parce qu'on a l'habitude de voir des boutiques fermées, mais ces boutiques rouvrent. Quand on va dans une boutique, la boutique est dénoncée pour avoir spéculé sur des prix. Ils viennent, la boutique est fermée, mais comment cette boutique rouvre de nouveau? Comment ça se passe?
Oui, mais c'est ce que je t'ai dit. J'ai dit que si on fait un papier...
Non, je parle de l'amende. L'amende en question.
Bon, l'amende, ça dépend de la faute.
C'est pas fixé, c'est pas des prix fixés.
Non, ça dépend pourquoi ils ont fermé. Si aujourd'hui, la DNCC dit de vendre le pain à 300 francs, vous vendez à 350, ou bien le riz à 500 francs, vous vendez plus que ça, ils ferment. Quand ils ferment, c'est une convocation qu'on dépose devant la boutique. Vous venez les voir. Ils disent c'est que la faute que tu as faite. C'est tenant compte de cette faute-là que tu es pénalisé. Et maintenant, quand tu es pénalisé, on dit de payer telle somme. C'est les interventions qui viennent en ce temps. Ça, c'est tout le Mali. Dans tous les problèmes, quand on fixe quelque chose, les interventions viennent. Mais nous, on ne vient pas pour intervenir, laisser les gens faire de la fraude, mais nous intervenons pour diminuer peut-être la manne. Ça, c'est des choses qu'on peut faire. Sinon, si l'État fait quelque chose qui est normal, nous-mêmes, on appuie l'État par rapport à ça. Parce que nous faisons des sensibilisations pour que nos adhérents ne font pas des choses qui ne sont pas normales, qui sont contraires à la loi. Mais nous sommes obligés d'intervenir auprès de la direction, souvent pour diminuer, pour atténuer la situation.
Monsieur Abdoulaye Balo, vous voulez réagir sur ces fixations de prix?
Oui, sur les fixations de prix, ce que j'ai à dire à mon frère, quand on dit que le riz est subventionné, il faut savoir que ce n'est pas toutes les qualités du riz.
Monsieur Balo, vous ne me comprenez pas.
Non, l'État prend, certaines qualités du riz.
J'ai pas dit.
Parce que quand je dis que le riz est à 350,
s'il vous plaît.
Le riz, le kilo est à 350. L'État a fixé le prix à au moins à 290. Les gens sont en train de vendre dans les marchés. Bon, plutôt le prix plafond à 350. C'est le riz cassé non parfumé qui est appelé riz BIC. Parce que tous les riz ne sont pas subventionnés par l'État. Ils prennent certaines catégories de riz pour subventionner. Et ils fixent un prix plafond par rapport à ça. Pour faire passer la période de soudure. C'est comme ça que l'État évolue. Quand vous pensez que c'est tous les riz qui est subventionné, là, il y a problème.
Je n'ai pas dit tous les riz.
Ok, donc, nous allons venir.
On a fait des enquêtes.
En venant à notre question, s'il vous plaît, monsieur Sylvie, en venant à notre question, comment faire aujourd'hui pour rendre accessibles les prix à la population?
Bon. Par rapport à cette question, et tout le temps, moi, je demande aux services techniques concernés de serrer la ceinture parce que ce n'est pas facile. Parce que non seulement ils doivent faire le suivi des prix fixés, quand ils font le suivi, quand ce n'est pas respecté, ça doit être sanctionné, comme on vient de le dire. Et ce suivi-là, il ne faut pas que les malins passent. Parce que les gens n'aiment pas souvent la vérité. Ce travail-là est tellement costaud et tellement large que les agents des services techniques seulement ne peuvent pas le faire. Ils n'ont pas l'équipe ils n'ont pas l'équipe suffisante pour avoir la vision sur tous ces produits-là. Donc il faut que la population comprenne que c'est notre rôle aussi. Que tous les consommateurs comprennent que c'est notre rôle. Souvent, ils sortent, ils affichent des prix, des denrées alimentaires, des premières nécessités à la porte, devant la porte des boutiques. Ceux qui sont intellectuels, quand ils achètent un produit et que le prix est déjà fixé, tu le vois, le boutiquier te vend à un prix supérieur à ce qui est écrit. Il y a les numéros de téléphone des services techniques. Il faut les appeler. Au moment où ils ont augmenté le prix du pain, nous, on a fait un combat très chaud avec l'État. Au moment où l'État s'est décidé que le pain est revenu à 250, d'autres continuaient à vendre à 300 francs. On sortait. Les gens nous appelaient. Tel boulangerie vend à 300 francs. On appelle les services techniques concernés dans les communes, soit même la direction de la DGCC. Dans tel quartier, ce boulanger est en train de vendre ce produit à tel prix. Il sort. Quand ils sortent, ils ferment la boulangerie. Comme le doyen vient de le dire. Quand ils ferment, pour ouvrir maintenant, on leur taxe. Quand on leur taxe, c'est les négociations qui commencent pour que ces boutiques, ces boulangeries puissent être ouvertes. C'est comme ça, tout le monde doit être impliqué pour que les prix puissent être respectés. Parce que le problème au Mali ici, quand on parle, on dit oui, c'est l'État. C'est l'État, on s'en fout. L'État, c'est qui? L'État, c'est nous. L'État, c'est nous. Même si les services techniques sont en complicité en bas, quand toute la population va s'impliquer, les choses vont être claires et on va avoir la paix du cœur.
Mourio Momakalo, en période de cherté, que gagne ou perd le pays en termes d'économie?
Ben, écoutez, ça, tout dépend. Vous savez, nous avons une balance des paiements qui est déficitaire, surtout une balance commerciale qui est déficitaire depuis l'indépendance. Tenez-vous bien les derniers chiffres de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. En 2019, le Mali a exporté pour 2125 milliards de biens et de services et a importé pour 2525 milliards de biens et de services, donc de produits. Donc, ce qui se passe, quand vous achetez à l'extérieur, vous vous appauvrissez parce que vous envoyez votre argent à l'extérieur. Mais quand vous vendez à l'extérieur, vous vous enrichissez. Et c'est ce qu'on voit un peu avec le coton, l'or, dans une moindre mesure, mais surtout les animaux vivants. Et c'est pour cela que le prix de la viande est assez élevé. Parce que les pays voisins, le prix est plus élevé ici, là-bas qu'ici. Donc, l'éleveur, il fait un calcul économique. Si je peux vendre là-bas à tel prix, et aussi, il y a le fait que si l'éleveur amène le bétail là-bas, il ne peut plus revenir avec. Donc, il est obligé de bazarder. Donc, maintenant, c'est la responsabilité de la puissance publique de s'assurer que l'offre et la demande sont en équilibre. Moi, je ne peux pas comprendre que dans un pays où les prix sont libéralisés, qu'on fasse la police économique. Le secteur du commerce, de la consommation et de la concurrence sont réglementés au Mali. Et donc, c'est ce service-là qui doit s'assurer qu'on n'enfreigne pas cette loi sur la consommation, le commerce et la concurrence. Donc, la stabilité des prix, ce n'est pas tellement cela, mais c'est de s'assurer que la balance marche, que le produit est là. Mais maintenant, pour que les gens vendent à un prix, l'État doit subventionner. Mais l'État ne peut réprimer que ceux qu'il subventionne qui ne respectent pas l'accord de la subvention. Parce que, parce que c'est l'argent du contribuable qu'on prend pour compenser. Donc si on vous donne en tant que commerçant une subvention pour que vous baissiez les prix, vous devez le faire. Si vous ne le faites pas, on va vous réprimer. Et c'est cela qui ne se fait pas parce qu'on ne sait pas qui est qui. Et je pense qu'il faut impliquer davantage les fêtières, que les services techniques parlent avec les fêtières pour que l'information circule comme on le dit. C'est un problème de gouvernance. L'information ne doit pas être discrétionnaire sur les prix. Ça doit être diffusé dans toutes les langues et dans tout le pays.
Alors, nous sommes à 7 minutes de la fin de cette émission. Je vais vous poser une dernière question pour un tour de table. La hausse de prix, elle est là. Nous la constatons, surtout que chaque année, en période de soudure, nous faisons face à cette situation. Quel peut être le plan de réponse? Je commence par le SINACODEM, le Syndicat national des commerçants détaillants du Mali.
Bon, le plan de réponse serait que l'implication de l'État, la responsabilisation de l'État dans ses actions. Ça, c'est des choses que je viens de dire. Même les subventions, ici au Mali, les subventions sont données d'une manière qui n'est pas normale. Il y a beaucoup de problèmes qui sont là, qui n'ont pas eu de solution qui fait qu'il y a augmentation. Si aujourd'hui...
Lesquels?
La transformation. Nous sommes des commerçants détaillants. On ne veut pas être détaillants pendant toute notre vie. On a proposé beaucoup de petits projets de transformation. Ici, qu'est-ce qui est transformé ici? Même nos bambous sont exportés. C'est l'État qui doit aider à subventionner, avant de subventionner des dédouanements, qui subventionne des petites et moyennes entreprises pour que nous produisions des choses ici qu'on peut exporter. Toute notre consommation vient d'ailleurs. L'État, au moins, il y a des projets ici. L'autre jour, j'ai vu à la télé un projet de Yanfolila qui est là depuis plus de 50 ans, Dama ou Kuala, qui fait la production animale. L'autre jour, j'ai failli pleurer. C'est un projet, aujourd'hui, si ça marchait pendant au moins 30 ans, ça allait trouver aujourd'hui que ça fait tache d'huile. Il y a beaucoup de projets de développement agricole ici qui viennent avec l'argent qui retourne, qui ne peut pas être investi. Si l'agriculture est mise aujourd'hui en valeur, tout l'argent qu'on prend pour aller acheter en Dubaï, en Chine, si on peut le faire ici, il y aura beaucoup moins de sorties d'argent. C'est ce qui fait qu'il peut y avoir la création des richesses et il peut y avoir stabilité des prix. Moi, ma proposition est que l'État aide les commerçants à s'industrialiser. S'industrialiser sans nous. S'il y a beaucoup d'industries chez nous, cela va nous favoriser qu'il peut y avoir des réductions des prix de beaucoup de produits alimentaires.
Alors, je vous prends au mot que l'État aide les commerçants locaux à s'industrialiser. Est-ce que cela peut être une réponse à cette cherté, M. Sidibé?
Bon, au fait, je vais partir dans le même sens que M. Kouita. Au fait, moi, je pense que l'État doit essayer de voir aujourd'hui, de mettre l'accent d'abord sur c'est-à-dire que l'industrialisation dans primo, c'est-à-dire que le transport. Parlant du transport, je parlerai c'est-à-dire que sur le dédouanement des produits. essayer de voir vraiment comment les choses sont détournées, c'est-à-dire au niveau du, des frontières. Donc quand on parvient à mieux maîtriser ça, cela va quand même beaucoup agir, c'est-à-dire sur les prix des produits qui sont importés. D'abord, maintenant, ceux qui sont produits de chez nous ici, donc je pense, à mon avis, si ces produits doivent flamber, je ne pense pas que cela doit être obligatoirement lié à l'État. Je pense que la bonne volonté non seulement des commerçants est là, et aussi l'accompagnement de la population aussi doit être là, afin de pouvoir aider. Il faut une collaboration, une symbiose entre les différentes collaborations pour que franchement cette situation puisse être calmée une fois pour toutes.
Voilà. Que faut-il faire pour qu'il n'y ait plus de hausse de cette situation dans le PSQ? Quel plan de réponse?
Ce que mon frère l'économiste vient de dire, gouverner c'est prévoir. Il faut que l'État prenne sa responsabilité. C'est ça que j'ai tout le temps dit sur ce plateau. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de sanctions. Ce n'est pas bon dans un pays. Mm-hmm. Aujourd'hui, on parle de flamber des prix, des denrées de première nécessité, qui sont même souvent cultivées chez nous ici, soit produites chez nous ici. Mais j'attire l'attention de l'État sur un fait qui se passe au Mali. Si on ne fait pas attention, aujourd'hui on parle de la vie chère, mais dans quelques années, on va parler de la vie finie. Parce que ça, c'est le problème des OGM. Nous ne sommes pas sur ce sujet aujourd'hui. Ils sont en train de faire disparaître tous nos anciens semences. C'est les OGM qui sont là. Et les OGM, chaque année, il faut acheter les semences. Dans 30 ans, le Mali va être confronté à un problème très sérieux. Du passage de broche, il faut que l'État prenne ses dispositions par rapport à ça. Nous sommes en train de travailler là-dessus pour que l'État revienne sur ses pas. Et qu'on commence à cultiver nos anciennes semences et à conserver nos anciennes semences pour quitter l'OGM. Et je dis qu'il faut que l'État prenne ses responsabilités. Chaque fois, quand il y a des périodes qui viennent, quand ils sentent que nous sommes dans cette période, il y a ces produits-là qui vont être en pénurie, que l'État prenne ses dispositions.
Mouribo Mahomakalou, la réponse à cette situation peut-être quoi?
Vous savez, dans tous les pays du monde, le premier objectif d'une politique économique, c'est d'assurer le plein emploi des facteurs de production et la stabilité des prix. C'est comme ça que vous allez améliorer le quotidien des individus. Mais aussi, au niveau de l'économie, quand je parle des facteurs de production, c'est d'abord le capital physique, et ensuite le capital humain, les ressources humaines, et le capital financier aussi, et la productivité, le capital immatériel. Mais aussi, la consommation est l'objectif premier des autorités dans tous les pays du monde. C'est pour cela dans les pays, les gens, les autorités subventionnent les produits de première nécessité et de grande consommation. Et comme l'a dit mon frère Balot, il va falloir que nous changeons de fusil d'épaule, transformer notre économie structurellement. Parce qu'on transforme très peu de produits et nous vendons tout à l'extérieur brut. Donc ça fait que nous n'avons pas assez de revenus pour subventionner notre industrialisation. Et il faut une politique d'industrialisation, de transformation. Il faut d'abord accroître la production, la diversifier, mais aussi la transformer. C'est ça qui va permettre que notre pays va quand même améliorer le quotidien. Parce que les revenus vont augmenter, la consommation va augmenter et le pouvoir d'achat des Maliens pourra augmenter.
Merci beaucoup. Je retiens de cette émission la bonne nouvelle que les auditeurs voudraient voir se réaliser. Des discussions en cours avec le ministère du Commerce et de la Concurrence pour vendre la viande, ce produit de grande consommation, à 2200 francs le kilo. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci aux invités. À la régie vidéo, il y avait Peting Diarra. La mise en onde est assurée par Salim Diarra. Je suis Mariam Maïga. Merci d'avoir suivi. Et on se dit à la prochaine.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani Ouamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chien Nibiri.
Halou Mouni.
Chien Nibiri.
Sigi Kafoba.